18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs, partout en France. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est parti pour la der de la semaine, les informés, de 18h à 19h30, chers amis à noter. Rendez-vous à ne pas manquer, analyser, commenter, décrypter l'actualité, c'est ici que ça se passe. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'abord de revenir sur l'expulsion de l'imam Hassan Ekoussen. Son avocate conteste le mandat d'arrêt européen. On reviendra en parler avec notre invité, l'imam Abdelhi Mamoun, qui officie sur l'antenne de Beurre FM que vous connaissez. Et on viendra, évidemment, et s'attarder pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne, évidemment, pour réagir aux propos concernant donc l'expulsion de l'imam Hassan Ekoussen. Et puis surtout, la rentrée des classes. Deux sujets que je vous propose. Comment s'est le déroulé pour vos enfants? Et puis, est-ce que vous êtes prêts, bien sûr, à tout payer pour vos enfants, fournitures, vêtements, tout ce qui correspond pour la rentrée scolaire. À 18h30, chers amis, c'est le Quad Neuf avec Michel Taube qui viendra nous livrer son regard sur l'actualité. Et puis, le face-à-face, c'est Philippe Nedji Bouriaki, acteur politique qui a gagné évidemment son procès. Il viendra en parler ici en direct. Face à lui, eh bien, il sera... Tiens, j'ai un trou de mémoire, c'est un truc de fou. C'est un truc, non mais c'est incroyable. Figure-toi, Tarek, je sais même pas. Philippe Nedji Bouriaki, il est face à qui? Ça c'est. Ah si, notre avocat. Il dit ouais, Tarek, il dit face à moi. Ça c'est vrai, ça peut aller loin. Notre avocat, David Libeskind. Oh ben oui. Oh là 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 là. Eh bien c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan. Informé. L'interview.
L'interview, c'est avec notre star à nous qui officie sur Beurre FM, l'imam Abdelhi Mamoun. Bonjour. Bonjour.
Je te fais un gros bisou de loin. Mais demain, je serai là pour, si t'es là, toi. Je te fais un gros bisou, en tout cas.
Eh ben, écoute, je vous embrasse, mon cher imam Abdelhi Mamoun. Je vous êtes, merci d'être avec nous. Sur l'antenne des informés sur Beurre FM, mon cher imam Abdelhi Mamoun. Parce que, vous savez, je tenais absolument à vous inviter parce que ça fait plusieurs jours qu'on parle de l'expulsion d'Hassan Ekoussen, que vous connaissez, non?
Oui, très bien.
Alors, il y a un mandat d'arrêt européen qui a été délivré contre l'imam en fuite. Son avocate, elle conteste le mandat d'arrêt européen. Alors, je veux que vraiment, imam Mamoun, qu'on prenne le temps de comprendre. Vous le connaissez, vous, le conférencier Hassan Ekoussen?
Oui.
Vous. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui?
Alors, effectivement, dans le passé, dans les années 90, il a été un leader dans l'UOIF, l'Union des Organisations Islamiques de France, qui était la branche reconnue comme étant les frères musulmans en France. Et il a créé cette branche jeune JMF, qu'on appelle Jeune Musulmans de France, et dans lequel il soutenait la sensibilité, le courant des frères musulmans en France. Mmh. Depuis les années 2000, il a fait un virage à 180 degrés, dans lequel il a totalement changé son discours. On l'entend en 2012, 2013, 2014, 2015, dire qu'il est pour la paix, pour la fraternité, contre le sexisme et pour l'égalité des devoirs et des droits entre les hommes et les femmes. Il est contre l'homophobie, il est contre l'antisémitisme, il dit même vive la loi contre l'antisémitisme. Mmh. Il dit clairement qu'il n'y a pas de mariage religieux, seul le mariage civil compte. Tout exactement l'inverse de ce en quoi l'accuse le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin.
Bon, après...
Et donc,
alors,
on est, nous les imams, perplexes par rapport à ça, puisque nous n'avons aucune vidéo qui confirme les allégations de M. le ministre de l'Intérieur. Et moi, je vous dis franchement, si récemment, ou les années, peu de temps, il aurait encore tenu des propos séparatistes, ou des propos dans lesquels il prêche la haine, comme le prétend Monsieur le ministre, je suis le premier à vouloir son expulsion. Mmh. Mais je ne trouve rien, même quand je cherche dans Google ou ailleurs, quelque chose qui permettrait... Je trouve exactement l'inverse. Là, quand vous allez sur Internet, et je dis à tous vos auditeurs, auditrices qui vous écoutent et qui nous écoutent, allez sur Internet, mettez Hassan Ekoussen s'exprime et vous allez écouter un personnage encore plus modéré que moi. C'est-à-dire, vous avez même des imams en France qui reprochent à Hassan el-Hussein d'être trop modéré, d'être trop francisé, d'être trop amoureux de la France, de trop amoureux des valeurs républicaines. Et là, on entend M. Darmanin, je ne sais pas pourquoi, dire que non, ce monsieur-là, il prêche la haine. Ramenez-nous des preuves, M. Darmanin. Nous, on a une tête, on a un cerveau, on réfléchit. M. Darmanin, montrez-nous des preuves concrètes, récentes, depuis la loi de séparatisme que nous soutenons. Et même la charte aussi qui a été signée par les fédérations et les imams et le Conseil national des imams qui a même fait des annotations pour expliquer la charte et pourquoi on était contre la mouvance des frères musulmans et le salafisme, etc. Et pourquoi aujourd'hui vous dites que ce monsieur-là est un prêcheur de haine. Sur quoi vous vous basez? Si vous avez des éléments...
Alors justement, parlons-en, Imam Abdelali Mamoun. Vous savez, vous dites ces éléments. Paraît-il, alors je me base sur le factuel, entre 2001 et 2004, on lui reproche des propos tenus à l'égard des femmes sur l'égalité homme-femme. On lui propose des propos en 2014... En 2010, entre 2010 et 2014, avoir tenu des propos antisémites. Vous lui répondez quoi, Imam Abdelali Mamoun?
Les propos antisémites, ils datent de 2003. Ce sont des propos qu'il a tenus, dont il s'est excusé. Je rappelle que la charte, ainsi que la mise en place du Conseil national des imams et de sa commission de déontologie afin de réformer le discours religieux des imams, et la création de sessions universitaires pour former les imams à un discours civique, etc., s'est faite récemment, et notamment depuis les attentats de 2015.
Oui.
Moi, je demande à M. Darmanin ou à quiconque de me ramener des preuves que M. Hassan el-Hussein aurait tenu depuis cette date-là quelque chose qui va dans la logique de prêcher la haine ou le séparatisme, etc. Si c'est vrai, je suis d'accord pour qu'on l'expulse. Même pas de France, pas de Belgique, il rentre chez lui au bled. Mais je ne trouve rien. Je mets à défi. Ramenez-nous des preuves. Elles sont où les preuves?
Donc vous dites qu'il les a bien tenus, ses propos antisémites, il y a quelques années, qu'il a fait son mea culpa, qu'il s'est excusé.
Oui.
Alors pourquoi ces affaires qui datent d'il y a environ entre 10 et 15 ans, aujourd'hui, sont sur le devant de la... Qu'est-ce qui se passe? Que doit-on comprendre, Imam Abdelali Mamoun?
On doit comprendre que c'est pas normal. On vient sortir des vieux dossiers, des notes blanches totalement poussiéreuses pour dire qu'aujourd'hui, ce monsieur-là n'a rien à faire en France parce qu'il prêche la haine. Dites-moi quand, alors que M. Hassan el-Hussein continue d'exercer l'imamat en France. Dites-moi dernièrement, alors qu'il fait la tournée des mosquées de France, une prêche dans laquelle il aurait... confirmer les allégations du ministre de l'Intérieur. Montrez-le-moi. Si vous me le prouvez, vous me le montrez, je suis d'accord. Moi, je ne prends pas parti, moi. Je ne suis pas du côté de Hassan el-Hussein ou contre lui. Je suis pour la loi et le respect de la loi et je suis pour que, en France, on ait un islam qui lutte contre le séparatisme. Eh bien, si vous avez effectivement la preuve que ce monsieur-là a tenu des propos de haine ou de séparatisme, on le dégage. Il n'a rien à faire en France. Mais prouvez-le-moi. Il n'y a rien.
Quand vous avez alors, on lui reproche quoi? On lui reproche. Très, très honnêtement, on voudrait comprendre quand même cette séquence sur l'affaire, évidemment, concernant donc l'imam conférencier Hassan el-Hussein. Est-ce qu'il y a un passif entre lui et le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin?
Possible. Mais je ne suis pas complotiste, moi. Je ne suis pas dans la logique. Moi, je suis un homme de factuel. Je ne vais pas aller dire ouais Monsieur Darmanin parce qu'il y en a beaucoup qui parlent comme ça. Mais je ne dirai pas. Mais je vais vous le dire de ce qui se dit dans les coulisses et dans les couloirs. Monsieur Darmanin a une dent contre Monsieur Hassan el-Hussein parce que Monsieur Hassan el-Hussein aurait déclaré qu'il était du côté des femmes qui avaient porté plainte contre Monsieur Darmanin pour harcèlement sexuel. Et c'est pour cela qu'il a une dent contre lui, une dent personnelle.
C'est ce qui se dit ou est-ce que c'est de source?
Moi, je dis pas ça. Moi, je dis pas ça.
Oui.
Je dis pas ça. Je dis simplement qu'il y en a qui le disent et qu'il y a un complot dans l'histoire. Et une des preuves qu'il y a un peu de complot dans l'histoire. Il a une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Est-ce qu'il a une obligation de quitter le territoire européen? Non. Donc, s'il est en Belgique, est-ce qu'il est en France? Pourquoi on le persécute? Pourquoi on s'acharne contre lui? C'est quoi cette chasse à l'homme? On dirait l'ennemi public numéro un, c'est un terroriste qui a tué des gens. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Pourquoi on le persécute comme ça? Moi, je suis pour que tous les auteurs de terrorisme soient poursuivis jusque dans le fond, dans les abysses des océans. Mais lui, il a fait quoi?
Alors aujourd'hui on parle d'un mandat d'arrêt européen. Son avocate, elle conteste.
Est-ce que cela... OQTF, attendez, obligation de quitter le territoire français, hein? Il a quitté le territoire français, on lui reproche, non, pourquoi t'as quitté le territoire? Il fallait rester en France, jusqu'à que nous on t'expulse avec les menottes comme un chien. Non, il a quitté, vous m'avez dit sortez. Le Conseil d'État m'a dit quitter le territoire. J'ai quitté le territoire français, je suis en Belgique, je suis plus en France. Qu'est-ce que vous me voulez là? Qu'est-ce que vous me voulez? Et vous m'appelez délinquant, moi, un grand-père de 58 ans, vous m'appelez délinquant? Mais c'est un scandale, c'est honteux. Et c'est quoi cette juridiction? On a judiciarisé une décision administrative, puisque un mandat d'arrêt émane d'un juge qui fonde son mandat d'arrêt sur une décision administrative. C'est une première dans l'histoire de France. Jamais c'est arrivé. L'administration, quant à la prise des décisions, elle prenait seule ses décisions administratives de mener ses enquêtes d'expulsion, etc. Pourquoi on a judiciarisé une affaire administrative? C'est pas normal.
Oui.
Il y a un problème là.
Que va-t-il se passer maintenant? Vous en avez parlé entre vous avec les collègues imams. Qu'est-ce qui se dit entre vous, tous les imams?
Les imams sont scandalisés. Les imams sont tout simplement, ils se disent quoi? Demain, M. Darmanin décide que M. Mamoun, l'imam, ou tel imam, est un intégriste, un séparatiste, il prêche la haine parce qu'il l'a dit, donc c'est vrai. Tu as vu, moi j'étais sur BFM TV tout à l'heure, là, une journaliste d'origine maghrébine dit que c'est Hakim El Karoui qui a fait un rapport contre Hassani Kusen. Je dis, mais Hakim El Karoui, il est qui? Il est dans la fonction publique, il a assermenté, il a un mandat pour qui lui donne la légitimité de faire des rapports sur les individus, de
faire oui, droit oui,
et
tout oui, ça. Oui.
Et c'est un chercheur à l'Institut Montaigne. Je le connais très bien, je fais partie de la MIF, l'Association musulmane pour un islam de France, qu'on a créé ensemble, moi et M. Hakim El Karoui. M. Hassani Kusen a fait son mea culpa, il a fait son virage à 180 degré, et donc il a fait son volte-face. Il ne tient aujourd'hui que depuis longtemps, depuis beaucoup d'années, il n'est plus dans la mouvance des frères musulmans. Il l'a corrigé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On veut l'expulser sur des affaires qui datent de Mathusalem. C'est pas normal, il y a un problème là.
Il y a un problème. Que va-t-il
Alors,
se passer
attendez,
selon
je
vous
juste terminer une chose. Je rappelle que nous avons été mandatés pour travailler avec la mosquée de Paris et d'autres fédérations pour travailler un code déontologique dans lequel on a réformé le discours religieux et on a imposé aux imams de, voilà, il y a des choses que vous pouvez pas dire, ça vous pouvez pas dire. Propos antisémites, homophobes, sexistes, tout ça.
Ça tombe sous le coup de la loi de toute façon.
Et voilà, lui aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il fait. Ou j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire. Si c'est le cas, et qu'il n'a pas respecté cela, eh bien, il dégage. Mais si, et on n'a aucune preuve, on n'a rien contre lui, et qu'on va simplement sur simple décision, parce que M. le ministre a dit, et parce que des notes blanches ont écrit ceci, ou que M. Hakim Karoui a fait un rapport, mais elles sont où vos preuves? Moi, quand je regarde sur Internet, j'entends M. Hassan Iqusen dire exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on l'accuse? Ce en quoi on l'accuse?
Bon. Que va-t-il se passer maintenant pour cette affaire de l'imam Hassan Iqusen?
Moi, je ne comprends pas comment un mandat d'arrêt européen pour qu'il puisse être expulsé de France, parce qu'il a une OQTF, a pu être émis alors que monsieur a tout simplement appliqué ce qu'on lui a demandé. On lui a dit, monsieur, dégagez de la France. Il est parti de France. Est-ce que la loi, est-ce que l'OQTF l'oblige à aller au Maroc? Non. Elle l'oblige à quitter la France. Il a quitté la France. Pourquoi on lui court derrière encore? C'est quoi cet acharnement?
Bon.
Nous, les musulmans, on a le droit de se poser des questions. C'est quoi? C'est-à-dire que là, il y a une islamophobie latente à travers cette démarche d'acharnement.
Eh bien, vous nous direz. J'ouvrirai l'antenne. Je voudrais aussi entendre nos auditeurs réagir, évidemment, oui, à tout ce qui se dit. L'imam Abdelali Mamoun, rendez-vous demain. À quelle heure précisément?
Adil. À 10h. Déjà à 9h avec Maître Serran sur les sujets de loi. Et moi, après, à 10h sur la foi. Donc, la loi et la foi qui se suivent l'une derrière l'autre et qui sont inséparables. Moi et mon ami Maître Serran.
Absolument. Rendez-vous
à
ne pas manquer.
À 9h et 10h.
Merci, l'imam Abdelali Mamoun. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté cet éclairage. Merci. À demain. Notez. Rendez-vous donc 9h et 10h. Je vais ouvrir l'antenne, je vais marquer d'abord la pause pub, mais je voudrais vous entendre, vous, votre avis, réagir évidemment à ce qui vient d'être dit au 01 53 48 3000. A tout de suite, le standard est ouvert.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan. 01 53 48 3000.
Les auditeurs ont la parole, je vous attends partout en France, chers amis auditeurs, tout de suite là maintenant, pour réagir à la fois sur ce que vient d'être dit par l'imam Abdelali Mamoun, évidemment, concernant le conférencier, l'imam Hassan Ekoussen, aujourd'hui, qui est sur le coup d'un mandat d'arrêt européen. Son avocate conteste. 01 53 48 3000. Je veux vous entendre, évidemment, sur cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'imam Abdelali Mamoun? Comment vous le vivez tout ça? Est-ce que ce qu'a dit l'imam Abdelali Mamoun est censé, est-ce que évidemment vous captez évidemment comment dirais-je que son incompréhension à l'égard de cette affaire? Eh bien, on en parle tous. Je vous attends au 01 53 48 3000 là maintenant. Évidemment, c'est votre espace, vous le savez, de maintenant jusqu'à 18h30. 01 53 48 3000, chers amis auditeurs. Je vous attends pour réagir à cette affaire concernant le mandat d'arrêt européen en direction de l'imam conférencier Hassan Ekoussen, mais surtout aussi l'interview que vous venez d'entendre de l'imam Abdelali Mamoun, qui évidemment a apporté lui son point de vue, son éclairage. 01 53 48 3000. Autre sujet aussi, la rentrée, comment elle s'est déroulée avec vos enfants? Ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez vécu des émotions? Est-ce que vous êtes prêt, évidemment, à tout débourser pour vos enfants? C'est-à-dire que habillement, vêtements, fournitures scolaires, la totale. Ça veut dire que vous ne refusez rien à vos enfants. Vos enfants, c'est sacré. Et pour eux, vous vous dites, eh bien, je fais un pari sur la réussite. Et pour ce pari sur la réussite, si, Philippe Nadjib Boyaki, figurez-vous qu'il y a des enfants, il y a des parents qui ne comptent pas parce qu'ils considèrent que c'est un pari sur leur enfant. Ils disent que si je donne tout, eh bien en retour, peut-être que voilà, il y a la réussite, l'éducation et tout, etc., etc. Beaucoup pensent comme ça, hein, d'ailleurs. Je vous attends aussi au 01 53 48 3000, chers amis. Allez, le standard doit normalement exploser, puisqu'il paraît-il que vous êtes très très nombreux, partout en France. Alors je vous attends. Sabrina, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de quelle ville, ma chère Sabrina?
J'appelle de l'Oise, là.
L'Oise. Dites-moi, ma chère Sabrina, quel sujet vous avez choisi? La rentrée scolaire et les enfants ou l'affaire Ekoussen?
Je voulais parler des deux. Déjà, bonne rentrée pour tout le monde. Hein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'intéresse, qui fait polémique, c'est plutôt pour l'affaire de l'imam. Par contre, j'ai pas entendu ce qu'il a dit.
L'imam Abdelali Mamoun.
Non, j'ai pas. J'ai récupéré ce qu'il a dit à la fin. Enfin, je crois entendre qu'il n'était pas d'accord.
Il est clairement pas d'accord, évidemment, par la décision entreprise par Gérard Darmanin. Ça, c'est clair. Il l'a fait comprendre.
Voilà, c'est ce que j'ai compris. Par contre, moi, c'est bien entendu, c'est mon avis personnel. Moi, je pense que cet imam, il a voulu s'intégrer. Il a voulu nous faire l'islam de France. Parce que sur beaucoup de ses conférences, pour moi, c'était un petit peu du n'importe quoi. Moi, j'appelle ça un petit peu les imams 2.0. Hein. C'était un petit peu, j'ai le droit de faire tout. L'islam, la religion, c'est après, la loi, c'est avant. Et j'ai envie de dire, c'est le revers de la médaille.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit, et que c'est un peu... Bon, j'y rentrerai. Je vais pas rentrer, parce que bon, ça, je crois que Darmanin aussi va me mettre un arrêt après. Voilà, je pense qu'il a voulu trop intégrer dans la religion les lois. Lois de la France.
Le second sujet que vous voulez commenter, c'est la rentrée et les enfants. Comment vous l'avez vécu?
La rentrée, bon, moi, ça s'est bien passé. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé comme chaque année. Et bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore rentrés. En tout cas, j'espère du courage pour toutes les familles, les femmes qui sont seules, et les papas aussi qui sont seuls. Courage à eux. Et en espérant que les enfants vont apprendre beaucoup de choses.
Vous êtes prêts? Vous faites partie de ces parents, ma chère Sabrina, qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour leur rentrée?
Il n'y a plus besoin de débourser, il faut avoir le minimum. Le minimum, c'est une règle, hein, avoir une trousse pleine. Après, beaucoup d'argent, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous faites la récup?
Exactement, je fais la récup. Maintenant, mes garçons savent, ils le font tout seuls, eux-mêmes. Il y a un cahier, par exemple, avec, 100 pages et ils en ont utilisé 20, ils vont les couper, ils vont la récupérer, ils vont récupérer le cahier. Mais ça, c'est depuis longtemps, hein. Ça, c'était une éducation que j'ai eue déjà avec mes parents.
Moi-même. Vous optimisez, j'ai bien compris.
Voilà.
Merci Sabrina d'être intervenue.
Merci à vous. Merci, je vous en prie.
Restez fidèle.
Merci, à bientôt.
J'ai Jamel de Nanterre. Bonjour Jamel.
Bonjour.
Vous êtes très nombreux. Comme vous êtes très nombreux, et je vais vous demander d'être court et précis. Jamel, je vous écoute, cher ami auditeur.
Moi, ce qui concerne l'imam, je trouve ça injuste.
Ah.
Franchement.
Oui.
C'est pas parce qu'on a des hameaux qu'on doit être séparé de notre famille, déchirer toute une famille. Il y a d'autres punitions, il y a d'autres condamnations, on peut faire autre chose à part ça. Voilà.
Ouais. Ça vous
Moi,
choque?
Moi, je trouve ça. Ça me choque, mais c'est pas tout à fait juste pour faire la suite des enfants sans papa, déchirer une famille, partager une famille comme ça, juste parce qu'on a dit un mot, et on peut le condamner autrement. On arrête de faire qu'il fasse imam, c'est tout. Et je suis plus imam, il parle des choses contre la République, et je suis plus imam. Mais le séparer de sa famille, l'envoyer dans un autre monde qui est si content, il dit ici, je sais pas quoi, et pour un mot, deux mots, qu'il a excusé en 2010 ou 2005, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas à cause de ça qu'on va, ces enfants, ils ont rien fait, pourquoi ne pas parler de leur père? Voilà, lui, il est fatif. D'accord, on le condamne avec des travaux du général, on le fait une semaine de prison, on lui interdit de faire imam, je sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. Mais séparer une famille, il laisse les enfants sans papa comme
beaucoup
ça.
Beaucoup vous pensez comme vous, la semaine dernière exacte. Merci, Jamel de Nanterre.
C'est un peu exagéré.
C'est un peu exagéré. Merci, Jamel. Tiens, je vais accueillir avant de retrouver Michel Taube, notre éditorialiste. Mohamed de Vitry-sur-Seine. Bonjour, mon cher Mohamed. Bonsoir.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, bonjour à vous.
Très bien.
Oui, je voulais intervenir concernant l'affaire Hassan Iqüissen. Donc, effectivement, je trouve ça totalement injuste, sachant que ça fait 20 ans que j'écoute un peu ses prêches. J'ai jamais rien entendu de bizarroïde dans ses propos.
Oui.
Au contraire, c'est quelqu'un qui fédère au niveau des jeunes. Mmh. C'est quelqu'un qui donne une tonalité à la jeunesse pour être plus républicain. Et sincèrement, je ne comprends pas cet acharnement du ministre. Sincèrement, moi, je suis complètement dégoûté de ce qui se passe.
Ouais, vous êtes nombreux à être dégoûtés, c'est effectivement. Ouais.
Et surtout que c'est une personne qu'on suit et qui personnellement fait beaucoup de bien à la jeunesse en essayant de dire à la jeunesse d'aller voter. C'est vraiment, elle pousse les jeunes à s'investir dans la vie politique aussi. Donc, sincèrement, je ne vois pas en quoi on voudrait virer un tel imam.
Oui, vous êtes nombreux à penser comme ça. Merci, Mohamed, d'être intervenu de Vitry-sur-Seine.
Merci, au revoir.
Merci de votre fidélité. 01-53-48-3000, on continue, et le standard doit évidemment continuer à vibrer, chers amis, autour de cette question de ces deux sujets que je vous ai proposés. Tout de suite et pour l'heure, c'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
avant de retrouver le face-à-face, Michel Taube. Bonjour, le patron de du magazine en ligne Opinion Internationale, mais vous êtes aussi également éditorialiste dans les médias. Michel Taube, bonjour.
Bonjour, cher Adil, et bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
Vous avez décidé de consacrer votre rentrée radiophonique en parlant de l'affaire Bokba. On vous écoute.
Absolument. D'abord, j'espère que tous les auditeurs ont passé de bonnes vacances et que tout le monde reprend avec de l'énergie, de l'enthousiasme et la volonté d'avancer. Alors, effectivement, je voulais parler de l'affaire Pogba parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Évidemment, le foot, c'est le sport universel et comment ne pas au moins tendre l'oreille à ce qui arrive avec cette affaire. Moi, je voudrais dire trois choses. La première, je voudrais dire que malheureusement, la réalité, c'est que l'affaire Pogba, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Ah oui, oui.
Et que malheureusement, on ne le dit pas assez, mais le football est gangréné par plein de phénomènes comme ça, de prise d'otages, de footballeurs qui réussissent, de problèmes d'entourage, de problèmes de respect de la loi, il y a parfois des problèmes de drogue, des problèmes de radicalisation. Enfin, franchement, dans le football, on le sait bien, il y a de la violence, il y a des problèmes, encore une fois, de respect de la loi, tout simplement, au sens noble du terme. Et je pense véritablement que cette affaire devrait être l'occasion de faire un peu le ménage dans ce milieu-là. Deuxième point, ça concerne, et là franchement, je trouve ça vraiment scandaleux, ça concerne les instances du football en France. Les instances du football en France ne s'occupent pas assez des footballeurs pour les aider lorsqu'ils commencent à réussir ou qu'ils réussissent à rester sur le droit chemin et ne pas péter les plombs pour aller à l'essentiel. Déjà lorsqu'il y a eu le scandale du Stade de France, on n'a pas entendu M. Noël Le Graët, qui est le patron du foot français, dire un seul mot. Et je pense que les autorités du sport, du foot, doivent être beaucoup plus présentes auprès des footballeurs pour les aider à avancer sur leur chemin de vie et professionnel et personnel. Et puis la troisième chose que je voudrais dire, ça concerne les frères Bokba eux-mêmes. Lorsque vous êtes un sportif de haut niveau, que vous réussissez, que vous êtes forcément un exemple pour les jeunes et pour tout le monde, vous avez des responsabilités, vous n'avez pas que des droits. Le droit, c'est le fric que vous touchez et c'est la belle vie que vous avez le droit d'avoir parce que vous avez réussi. Mais vous avez aussi des responsabilités. Et je pense que les deux frères Pogba, l'un comme l'autre, sont totalement coupables de leur guerre intestine et fratricide et que c'est absolument scandaleux de leur part. Je pense qu'ils sont les premiers responsables de ce qui arrive et que c'est un très très mauvais exemple pour la jeunesse française ou de n'importe où, guinéenne, africaine, puisque Pogba est d'origine franco-guinéen, mais c'est véritablement inadmissible leur comportement. Et donc, si vous voulez, voilà ce que je voulais dire, les trois coups de gueule que je voulais passer à travers cette affaire Pogba. Mais ceci dit, allez tous sur le foot ce week-end, c'est le plus beau des sports, avec le rugby et quelques autres, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais voilà un peu ce que je voulais dire pour commencer la saison, mon cher Adil.
Oui, mais écoutez, j'ai bien vu, vous êtes rentré très fort dans la saison, justement. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle rentrée. À vendredi prochain, c'est noté 18h30 désormais.
Absolument, merci. Bonne journée à vos auditeurs.
Bon week-end, mon cher Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale, mais également aussi éditorialiste. 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, partout en France, je voudrais vous entendre venir réagir autour de ces deux sujets d'actualité. A tout de suite, on marque la pause pub et on retrouve le face-à-face notamment.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h42, si vous venez de nous retrouver, c'est parti. Avant d'accueillir les auditeurs, bien sûr, au 01 53 48 3000, le face-à-face. Jingle.
Les informés, le face-à-face.
Avant d'accueillir Karim de Mantes-la-Jolie et Aziz du Mans. Beaucoup d'appels ce soir. Maître David Limbeskid, comment ça va?
Ça va. J'ai passé de bonnes vacances, comme vous, comme toi.
Vous avez bonne mine.
Voilà, et je suis content de reprendre cette rentrée. Quoi.
Le cabinet va bien?
Le cabinet, ça va. Enfin, c'est ça pas tourne. Le plus important. Hein. C'est important parce qu'on gagne sa vie avec le cabinet. Mais après, ce qui importe, c'est d'être heureux.
d'être heureux.
Le matériel ne fait pas tout.
Vous avez bien raison. À vos côtés, c'est un élu de Rueil ma maison. Monsieur Rafik Temgari, bonjour.
Bonjour Adil.
Bon temps.
Merci.
Il arrive.
Bon âge. Sur Rueil ma maison.
Non, le soleil, il est bien sur le sud.
Bon. Ah, je kiffe de... Vous avez vu l'avocat comment il vous tacle?
Mais...
Non, c'est pas...
J'ai
Rueil ma maison, ville tranquille, ville bourgeoise.
D'ailleurs, je profite pour ça, d'inviter les auditeurs, que le 24 et le 25 septembre, on fait un superbe jubilé impérial.
Ah, c'est bon,
où
ça.
Tout le monde va être costumé en...
Ça, c'est pour Philippe,
en l'époque de Napoléon et Joséphine.
L'élu régional.
Notez sur vos agendas.
Vous avez un élu régional, là?
Oui, bah, je le connais.
Mais Philippe, faut qu'il vienne.
Bien sûr,
Lyon,
il sera présent.
Ah, vous êtes
le 24 et le 25 septembre, vous êtes les bienvenus à Rueil Malmaison.
D'accord.
Enfin, Philippe Ladjibouriaki, notre élu de la région. Comment ça va?
Écoute, Adil...
Alors, paraît-il, vous êtes un homme heureux.
La légende le dit et je confirme la légende. Et
parce que vous avez gagné votre procès.
J'ai gagné.
Brièvement, rappelez-nous.
Ouais, bah, j'ai été exclu de rappeler que j'étais vert sur une cabale raciste antisémite. Ça, on revient pas dessus.
Si.
Cabale antisémite.
Il a été chargé.
Mes positions raciste peut-être, mais pas antisémite.
Ah si, antisémite, c'est clair, net et précis. Raciste et antisémite.
Mais pourquoi t'es des origines juives?
Mais la légende le dit aussi, mais ça je peux pas le confirmer.
D'accord.
Si à mon grade. Non, non, mais
c'est ce qu'on lui a.
Non, c'est pas ça, c'est que j'ai eu des positions claires, fermes sur la sécurité israélienne.
Ah, d'accord.
Je suis pour deux États, israélien et palestinien, et je pense que les attiseurs de haine n'ont pas leur place dans cette discussion, et que la vie d'un enfant palestinien a autant de valeur que la vie d'un enfant israélien, qu'un enfant syrien ou qu'un enfant ukrainien. Et voilà. Depuis d'ailleurs, il y a une commission de lutte contre l'antisémitisme qui s'est montée à Europe Écologie Les Verts, donc c'est tout un symbole. Mais l'important.
Et vous avez démissionné à Europe Écologie Les Verts.
J'ai gagné mon procès puisqu'ils ont refusé de me juger en interne, puisque voilà, j'ai été viré, donc j'ai saisi l'instance référente d'Europe Écologie Les Verts qui a toujours pas statué. Il y a surtout un congrès en fin d'année et ça a évité surtout que je puisse participer au congrès et que je devienne le prochain secrétaire national. Donc j'ai saisi la justice. La justice m'a donné gain de cause en premier ressort. Je pense pas qu'ils vont faire appel, mais ils peuvent.
De toute façon, si t'as démissionné, je pense pas qu'ils vont faire appel.
Ça serait bien. Non, ils peuvent quand même faire appel. C'est pas parce que t'as démissionné que l'appel ne peut pas fonctionner de fait, mais ça serait bien, comme ça on leur prendra un petit peu plus de sous encore, parce que on leur a pris un petit billet de 5 000 au passage, plus les dépenses, etc.
Oui, alors c'est vrai. Alors moi, j'ai regardé l'ordonnance de référé de Philippe, parce qu'on se connaît, hein, on est amis. Effectivement, ils ont été condamnés pour les frais d'avocat à 5 000 euros, ce qui est extrêmement rare, en fait, que ce soit une somme aussi élevée. Généralement, c'est 1 000 euros.
1 005, ouais.
Non, mais
là, 5 000 euros.
Mais ouais,
il s'est enrichi, Philippe.
Je ne me suis pas enrichi parce que ça va dire que de mon avocat. Mais mon avocat avait demandé 10 000. Il me dit si on a 1 000, c'est extraordinaire. Et leur avocat a demandé 5 000. Donc le juge a considéré que ça valait peut-être 5 000. Donc il leur a donné gain de cause. Mais c'est à eux de payer ces 5 000.
Oui, mais à l'envers.
À l'envers.
Excellent.
Ils ont pas que
eh bien, bravo à vous.
Voilà,
bravo
à vous. Et donc, dans la foulée. C'est ce que j'ai dit à une personne, j'ai démissionné parce que mon honneur et ma dignité a été rétabli par la justice. Je crois que c'est voilà, point barre, et je vais pas rester avec une
hors
la loi.
Alors ce que tu dis est un petit peu inexact, excuse-moi de te contredire, parce qu'ils ont pas jugé le fond en fait. En fait, tu as gagné grâce à un vice de forme.
Non, c'est pas un vice.
Mais sur les faits contre-approchés, en fait, le juge administratif n'avait pas encore statué.
Il pouvait pas.
Messieurs, ce que je vous propose, c'est d'accueillir Karim de Mantes-la-Jolie et Aziz Dumont. Et on démarre évidemment les commentaires entre vous, le point de vue qui se croise. Karim de Mantes-la-Jolie, bonjour.
Oui, bonjour Adil.
Bonjour, bienvenue.
Oui. Bonjour à tout le plateau, bonjour à toi Adil.
Salut.
Le sujet, on est bien d'accord en fait qu'on avait le choix entre plusieurs sujets, dont celui de l'imam Hassan. C'est ça.
Oui, Hassan et Koussen.
Alors, je voulais intervenir par rapport à cette affaire. Bon, je suis pas le genre de personne, en fait, qui appelle la radio tous les jours. Mais là, il faut vraiment que j'intervienne parce que ça me met hors de moi. C'est un imam que j'ai déjà entendu. Je suis de Mantes-la-Jolie. Il intervenait lors du prêche du vendredi, sur certains vendredis où il était dans le coin. Et il venait prêcher le vendredi. Donc, je ne suis pas le genre de personne intégriste. Alors, il y a quelque chose de désagréable, c'est que je m'entends en fait en France sonore.
Mais il faut éteindre votre poste radio.
Alors, le poste radio.
Ouais.
Attends, tu veux que je baisse, non ? Voilà, un tout petit peu.
Allez-y.
Voilà.
Voilà, ah, c'est beaucoup mieux. Et donc, je ne l'ai jamais mis dans la catégorie, en fait, des personnes ayant un discours haineux, ayant un discours dangereux pour nos jeunes, ayant un discours discriminant par rapport à d'autres, d'autres populations. Je ne suis pas le genre, en fait, à avoir des idées extrémistes. Je peux avoir des amis chrétiens, juifs, etc. Ça ne pose aucun problème. Et là, cette affaire me met hors de moi, parce qu'en quand je regarde un petit peu la proximité géographique du ministre avec avec les origines de Hassan Hussein, mmh. donc le Nord, là, je me dis en fait qu'on a une discussion en fait qui comporte en fait quelques loupés, à savoir en fait que il y a des choses qui nous dépassent. Là, est-ce que si cet imam venait de Marseille, est-ce que cette affaire prendrait la même tournure ? Je ne le pense pas.
Oui.
Est-ce qu'il y a une affaire de règlement de compte entre ces personnes qui doivent bien se connaître d'ailleurs, parce que cet imam en fait est assez réputé dans le Nord. Monsieur Darmanin a été élu depuis un petit moment dans le Nord. Donc ils ont dû se croiser, ils ont dû se voir, ils ont dû dîner ensemble. Ça, j'en ai la certitude. Et à la fin, on a en fait une affaire comme ça. Donc moi, j'ai envie de dire à Monsieur Darmanin, pour gagner du temps, si cet imam est mis sur le banc des accusés à ce point-là, bah, que ça soit plus clair et qu'il fasse la même chose avec tous les imams. Parce que le discours que j'ai entendu de la part de cet imam, tous les imams ont le même type de discours. C'est exactement la même chose. Et c'est pas un discours haineux, encore une fois, je le répète. Là, c'est une famille qui va être déchirée. Un imam qui est en fuite, parce que là, quand on regarde les médias, en fait, automatiquement, on se dit, puisqu'il est en fuite, il est automatiquement coupable. Alors que je suis persuadé que je ferais exactement la même chose à sa place, sachant que je ne suis pas fautif, sachant que je n'ai rien fait de gravissime. À la limite, qu'on le juge, qu'on le mette, je sais pas moi, dans un tribunal, avec un juge qui va lui reprocher certaines choses, qui va le mettre en prison s'il le faut, un certain nombre de jours, de semaines ou de mois, mais que ça prenne pas cette tournure, c'est pas possible. Mmh. Et là, on est en train d'admirer en fait cette situation, en se disant en fait, bon bah voilà, à la limite c'est un imam qui a fait des bêtises, qui va retourner au bled, et tout est normal. Et médiatiquement, moi ça me dégoûte en fait d'écouter les journalistes qui justement en fait prennent fait et cause pour le ministre. Ça veut dire que si le ministre l'a dit, c'est que c'est vrai. Mmh. C'est que c'est un imam qui est dangereux. Et moi, sincèrement, personnellement, ça me dépasse.
Ça me dépasse. Merci Karim de nous avoir livré votre...
Donc, merci de m'avoir donné la parole. C'est normal. Bon courage à vous.
Merci Karim et merci de votre fidélité. Tiens, je vais accueillir Aziz du Mans. Aziz du Mans, mon cher Aziz. Bonjour, mon cher Aziz.
Bonjour, vous m'entendez ?
Bienvenue, bien sûr qu'on vous entend. On vous écoute, cher Aziz.
Alors moi, je voulais parler aussi de l'imam.
Oui.
Déjà, je voulais dire que quand même, on a tous vu que le Maroc ne refusait de le faire rentrer au Maroc. Déjà, il faut se poser les vraies questions. Je pense que si le Maroc, du jour au lendemain, décide de refuser l'accès à un imam, enfin expulsé de France, c'est que derrière, je pense que leurs services sont bien renseignés sur l'imam et comprennent bien que c'est plus un problème interne entre deux personnes qui s'entendaient bien, qui ont mangé ensemble, comme l'a dit l'ancien interlocuteur qui était au téléphone, que ça. Ensuite, je voulais pas intervenir que sur ce problème. Je voulais quand même que la communauté qui nous écoute et les gens qui sont pas aussi de la communauté se posent les vraies questions. Quand on parle justement d'un imam qui est modéré, que tout le monde connaît, que les vidéos, on s'était tous partagées, on les a envoyées à nos enfants, à nos amis. Franchement, c'est des vidéos où même lui... je pense qu'il s'en est pris plein la gueule par les personnes que l'on veut expulser. Voilà, je pense qu'il est de l'autre côté. Après, il faut vous poser les vraies questions.
Ouais.
Un imam comme ça disparaît pas.
C'est vrai, c'est une vraie question.
Mais c'est vrai. Demain, il y a quelqu'un qui fait un accident de voiture, qui percute un véhicule ou autre, ou un attentat ou quoi que ce soit, on va le retrouver très rapidement. Là, je pense qu'il y a des problèmes... politico-interne, je ne sais pas si ça
c'est ce que disait l'imam Abdelali Mamoun tout à l'heure, en tout début d'émission.
Voilà. Et moi, ce que je voulais préciser aussi, c'est aussi... bon, là-dessus, on sait tous que nous, gens intelligents, cet imam-là, il est modéré, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, là où je voulais intervenir... alors, je vais faire une petite pub, je suis désolé, pour Mohamed Loumani, donc MTV Premium sur Snap, qui en a parlé aujourd'hui. Et j'invite tous les interlocuteurs à aller voir son Snap, parce qu'il dit des choses vraiment percutantes. Ouais. Et aussi, une chose très importante, je pense que la communauté, quand il y a eu, par exemple, le problème avec Brahim... sur le Maroc, on a vu de la seconde où la vidéo est sortie, une communauté soudée pour défendre. Alors, je suis marocain, hein. Je suis marocain et je connais en plus Brahim. Donc, incroyable l'émoi qu'il y a eu et tout ça. Et pour un imam, on ne fait rien. Un imam qui est modéré. Je pense que, sincèrement, on commence à perdre de. On est très gentil. On est très gentil. On l'a vu avec le confinement, les musulmans, quel respect, plus de mosquée, plus rien. On n'a pas essayé d'ouvrir des mosquées en cachette. Moi, je commence à me poser des réelles questions sur le fascisme qui s'est assuré.
Ouais. Vous m'avez parlé de cette personnalité qui a parlé de l'imam Abdelali. L'imam Hassan Ikoussen, c'est qui?
MTV Premium, Mohamed Loumani. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Je pense qu'il a fait une story aujourd'hui. Il a le courage.
Ah oui, d'accord. Il a pris la parole pour défendre l'imam Ikoussen.
Tout le monde prend la parole. Moi, ça fait 5 ans que je suis pas monté sur BFM Radio. Je vous écoute tout le temps. Là, je suis monté parce que je sors du sport et je suis encore énervé. Pourtant, ouais. je me suis bien.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Aziz?
Alors, je suis commercial, moi. Je suis commercial. Bon. Commercial, voilà. Et donc, j'aimerais dire à la communauté que, pour une fois, c'est quelqu'un bien, on fait quelque chose ou on va continuer à se la fermer. Quand je dis quelque chose, c'est que c'est se manifester, c'est dire son désaccord. Et posez-vous des questions, les vraies questions sur le Maroc. Pourquoi le Maroc, du jour au lendemain, dit non?
Eh bien, merci d'être intervenu, Aziz Dumont.
Voilà.
Merci à vous et bon courage. Et merci de votre fidélité. Merci, si j'ai bien compris, vous êtes un fidèle auditeur. Tiens, merci. Maître David Levinskid, Rafik Tamgari, Philippe Nadjibouriaki, qu'est-ce que cela vous inspire, évidemment, cette affaire?
Alors, si je peux prendre la parole.
Allez-y, Maître David Levinskid.
Alors, moi, je ne fais pas du tout partie de la communauté musulmane. Je tiens quand même
pas encore
à souligner. Non, jamais même.
Bientôt,
j'ai ma propre spiritualité.
Ce n'est pas le propos, de toute façon.
Si, mais c'est important parce que voilà, mes propos, je pense, que porteront plus d'objectivité. Moi, je suis choqué, en fait, à double titre. Alors, déjà, au titre, je suis juriste. Alors, il a tenu apparemment des paroles offensantes envers les juifs, donc des paroles antisémites et puis envers les femmes. Mais ce que je constate, c'est qu'il a jamais été condamné. Hein. Pour moi, c'est un premier point. Il a jamais été condamné pénalement pour des propos qu'il aurait tenus. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la justice administrative. Tout le monde sait en fait que le Conseil d'État est souvent, malheureusement... complice, entre guillemets, même si je modère mes propos, en fait, du pouvoir gouvernemental. Hein, parce que je vous rappelle que le tribunal administratif, en fait, avait refusé cette expulsion et que le Conseil d'État est revenu sur cette décision du tribunal en autorisant l'expulsion. Ce que je comprends mal, en fait, en tant que juriste également, c'est le mandat d'arrêt, puisque, en fin de compte, M. Darmanin voulait l'expulsion de cet imam, il s'est auto-expulsé, l'imam. Donc pourquoi vouloir à tout prix le retrouver pour l'expulser, dès lors que, de toute façon, il est parti de France? Donc déjà, ce qui montre en réalité que c'est vraiment une affaire personnelle que M. Darmanin fait à l'encontre de cet imam. Et malheureusement, en fait, ça, à mon sens, ça va, voilà, ça choque les personnes, en fait, de religion musulmane. Et ça laisse encore... Pour elle, à mon sens, ça démontre en fin de compte qu'il y a un sens de sentiment anti-musulman. Alors, peut-être pas de la part d'Emmanuel Macron ou du gouvernement, mais en tout cas, de la part de M. Darmanin qui a fait cette affaire une affaire personnelle et en fin de compte qui est une pauvre réaction d'orgueil à l'encontre de cet imam qui, je le rappelle, en fait, est né en France, hein, il n'avait pas de nationalité française, qui a passé toute sa vie en France, qui a de mémoire 5 enfants. Et comme ça, couper en fait un homme de la sorte de ses enfants, je trouve ça complètement scandaleux et contraire au droit, quoi.
Rafik Temgari,
Alors moi j'ai deux visions, donc je rejoins Maître sur une vision où le ministre il veut vraiment l'expulser.
Je ne sais pas si votre micro est bien ouvert, oui, je pense que oui, allez-y.
C'est bon ? Bah, très bien. Donc je disais que je rejoins Maître dans son analyse où il dit que c'est vrai que le ministre il veut l'expulser et on n'a pas vraiment de fait juridique.
Donc, non, mais il n'a jamais été condamné cet homme. Hein.
Exactement.
Pour les faits, pour les propos qu'il aurait tenus.
Pour les faits qu'on lui reproche il y a quelques années d'ailleurs, il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans.
Non, parce qu'en fait, devant le Conseil d'État, ils ont rajouté des éléments factuels des propos qu'il aurait tenus en 2021.
Tout à fait. Voilà. Donc moi, j'ai vu, il y avait des propos sexistes, antisémites, négationnistes.
En 2021, vous êtes sûr ?
Si, récemment.
Donc, oui, 2021, je ne sais pas, mais ils disent qu'il remonte à plus de 20 ans.
Ça, c'est l'info que vous m'apportez. Moi, j'ai les infos que j'ai, c'est 2001, 2004, entre 2001 et 2004, et entre 2010 et 2014. Ouais.
Il me semble qu'il y a eu des propos en 2020. En
parce que ces dernières années, il n'a pas tenu de propos qui lui ont permis de déraper.
2014, mais bon, allez, le tribunal administratif avait pris en compte des propos beaucoup plus anciens.
Oui, c'est ça, voilà. C'est 2014, entre 2010 et 2014.
Ça doit être 2010 et 2014. Oui. C'était rajouté dans le dossier devant le Conseil d'État. Ce qui explique que le Conseil d'État, en fait, a également censurer cette décision.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a eu ce discours séparatiste, des allusions homophobes, etc. Mais ça date. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Et il n'y a pas, de décision juridique.
Il n'y a pas une condamnation.
Donc
pénale.
Aujourd'hui, c'est plutôt. Prescrit, est-ce que les caméras sont là ? Donc on voit Gérard Darmanin partout, sur les plateaux de télé, sur les communications, tout etc. Fait, ouais. Je suis élu en com et je peux vous dire qu'il est très bien conseillé parce qu'il est sur l'ensemble des terrains. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose où je suis un petit peu pas content du discours de cette fois-ci de l'imam Abdelali Mamoun qui disait tout à l'heure nous musulmans, et c'est là où je dirais je pointerai un petit peu du doigt à la communauté musulmane puisque c'est un imam et c'est quelqu'un qui représente une communauté. Je trouve que la communauté musulmane encore une fois est pas du tout présente. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai cherché depuis ce matin des communiqués de la mosquée de Paris, des communiqués de la fondation de l'islam de France, un communiqué de l'OUF. Je n'ai rien trouvé sur les réseaux sociaux, je n'ai rien trouvé sur Facebook, je n'ai rien trouvé sur leur site. Donc aujourd'hui, tant que les musulmans n'ont pas un lobbying, n'ont pas une institution qui peut parler d'égal à égal au gouvernement, au ministre, je pense que demain, n'importe quel homme politique, il peut condamner une personne.
Il existe quand même
Il y a eu un soutien, vous savez, tous cette communauté justement de sympathisants qui le suivent, à la fois sur les réseaux sociaux.
Mais qui reste des musulmans lambda.
Voilà, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'institution représentative des musulmans de France n'a pas réagi.
Du tout.
C'est aussi scandaleux.
Donc je trouve que c'est scandaleux parce que on voit ça pour d'autres communautés. Il suffit juste de faire quelque chose. On sent une solidarité et une mobilisation aujourd'hui pour la communauté.
C'est quoi la frilosité? C'est ça que vous voulez dire?
J'ai pas entendu le recteur de la mosquée de Paris.
Les bonnes relations avec le gouvernement.
Tout à fait.
C'est tout. Après, moi, si vous voulez, bon, je ne sais, je connais pas cet imam. Je n'ai pas écouté ses vidéos. Mais moi, peu importe en fait les idées qu'il a. Moi, dès lors qu'il n'a pas été condamné pénalement, je considère qu'il a utilisé sa libre expression. La France, c'est quand même le pays des droits de l'homme, de la
liberté
d'expression.
Notre élu Philippe Nadji Bouriaki.
Je suis super embêté. Sur un terme juridique, il a une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire, et c'est ce qu'il a fait. Point.
Oui, voilà.
Maintenant, à la Belgique, de faire. Je ne comprends pas ce mandat d'arrêt européen.
Exactement.
Parce que il n'a pas de sens juridiquement, il n'a pas de sens. Là, on voit que Darmanin veut absolument faire un point d'honneur à titre personnel. Parce qu'il est en préparation 2027 et qu'il veut
racler
l'électorat du conservateur de droite et même un petit peu d'extrême droite et dire voilà, vous voyez, moi, on va pas rigoler avec ça et c'est séduire une certaine électorat. Sur l'affaire en elle-même, je commente pas en tant que politique, on doit pas commenter une décision de justice, mais moi, je suis un politique un petit peu hors norme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit. Il y a un truc qui s'appelle la prescription. Je suis tombé, moi, sur les vidéos. Je peux vous dire que les vidéos, il n'y a pas d'ambiguïté. Même si après, il regrette, il revient, ces vidéos originales, je suis désolé d'ailleurs, je ne comprends pas que personne n'ait porté plainte, mais il y a réellement des propos antisémites, il y a réellement des propos homophobes, et réellement des propos misogynes.
Enfin, il s'est repenti, quand même.
Oui, il s'est repenti. Non, mais moi, je suis pour la rédemption, la réinsertion, la réhabilitation, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de changer. Non, mais...
Bah, l'imam disait tout à l'heure que là-dessus, il n'y a pas un propos tenu.
Si.
Ces
dernières années, non. Mais c'est vrai que les propos qu'il a tenus, moi, en tout cas...
Les faits remontent à 2014.
Sur les archives que je suis tombé, ils sont prescrits par la loi. Et donc, moi, dans un état de droit, ce qui m'importe, moi, c'est la loi. C'est ça qui nous régit. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas considérée coupable, c'est important.
Bien
aujourd'hui,
sûr.
Il y a un tribunal médiatique qui dit, boum, vous êtes coupable. Rappelez-vous, moi, mon affaire, le Mediapart m'a jugé, condamné, et je me suis fait fumer, et j'ai dit aux copains, calmez-vous, le temps de la justice, c'est pas le même temps de médiatique, vous verrez qu'à la fin, on a eu raison, et on a eu raison. Et c'est vrai...
Faut reconnaître.
Non, sur la forme, mais même sur le fond.
Oui,
David, mais en laissant dire ça, je peux pas te laisser dire ça parce que.
Si, parce que t'as pas été jugé sur le fond.
Laisse-moi finir sur
le fond. Aujourd'hui, on parle pas de l'affaire de David, on parle plutôt de.
Non, c'est pas mon affaire, c'est celle de Philippe.
C'est important parce que sur la forme, j'aurais pris 5000, sur le fond, j'aurais pris 50. Parce qu'on a la preuve qu'aujourd'hui, il y a eu des faux témoignages et qu'ils ont témoigné de manière anonyme et donc ils pouvaient se lâcher.
Sur l'affaire Iqoucem.
Mais sur l'affaire Iqoucem, ce qui est hyper important, c'est le signal fort que ça envoie, et je pense pas que ça envoie un signal fort à la communauté musulmane, même si les musulmans, bien évidemment, ils se sentent offensés, parce que ces 10 dernières années, il faut dire la vérité, Adil, tu peux te faire un nom dans la presse, tu t'attrapes un musulman, tu cognes dessus fort, et on te donne la Légion d'honneur, c'est la vérité.
Bon, là, t'exagères peut-être.
Non, je peux t'assurer que, non, j'exagère pas. Moi, je suis de culture judéo-musulmane, et plusieurs fois, j'ai été offensé alors que je suis pas musulman. Alors j'imagine celui qui est musulman dans sa chair, et j'en ai plein autour de moi, il y a des fois, t'as envie de dire, mais ce pays me déteste, réellement.
Oui, mais je te dis pas le contraire. Mais la façon dont tu présentes ça, de taper sur... tu tapes sur un musulman et t'as la Légion d'honneur, non, c'est pas vrai.
C'est une image.
Oui, mais elle est un peu trop forte.
Non, mais elle est réelle, tous les quatre matins. Dès qu'on veut cacher un problème politique, on nous mettait un burkini, on nous mettait une burqa, on nous mettait une femme voilée, on nous mettait un barbu.
Mais je pense que, si on revient à l'histoire, c'est que...
Rafik Temgari.
Aujourd'hui, tout reste... Je pense que le 2.0 retrace l'histoire de l'ensemble des notre conversation ici peuvent nous la ressortir dans 10 ans. Donc aujourd'hui, les traces qui existent sur le net est un potentiel danger de nous dire. Donc,
je vais poser la question à l'avocat. Est-ce qu'on peut revenir sur les propos tenus en 2001, en 2004, en 2010, en 2014?
Non, pénalement, comme l'a dit. Pénalement. Il y a une prescription.
Prescription.
Non, c'est prescrit. Ça, c'est prescrit. Après, en fait, le conseil
entre 6 et 8 ans, ça dépend des choses.
C'est un peu plus. 10 c'est 10 ans, ouais. 10 ans, c'est un délit, donc. Mais après, bon, le conseil d'État lui a considéré que les propos qu'il avait tenus étaient contraires aux valeurs de la République. Bon, c'est quoi les valeurs de la République? Je ne sais pas, mais bon. En tout cas,
vous la connaissez,
si on connaît, la République.
Enfin, pour moi, liberté, égalité, fraternité sont les valeurs de la République.
Bien sûr.
Bah, donc après, le séparatisme fait pas partie.
Non, mais je suis d'accord, mais après, bon, c'est complètement disproportionné. Même, je crois que je suis pas le seul juriste à le penser. Et pourtant, c'est pour ça que c'est important que je dise, je ne fais pas partie de la communauté musulmane, parce que pour vous dire que mon propos n'est pas un soutien à cet imam. Mais en fait, en tant que juriste, que ce soit un imam ou quelqu'un d'autre, c'est choquant. C'est choquant parce que cet homme est né en France, parce qu'il a sa famille en France, et que là, c'est un fugitif, comme dans les films policiers. Là, maintenant, on ne sait pas où il est. C'est un fugitif.
Et que
sa famille, en fait, ses enfants, sont surveillés en permanence par la DGSI, quoi.
Mais c'est normal. Voilà.
C'est normal, c'est logique.
Darmanin, je pense qu'il voulait faire vraiment un grand coup médiatique et l'attraper comme elle chapeau et l'emmener lui-même à l'aéroport et dire, regardez, vous voyez, je suis le shérif, je suis l'US Marshal.
Je suis le cowboy.
Et ce qui est choquant, hormis tout ça, c'est comment, alors qu'il était sous surveillance, il a pu s'enfuir. Là, franchement, je pense que c'est un camouflet.
Les renseignements territoriaux, la DGSI, ne sont pas très doués pour la surveillance. Moi, je te dis.
Je ne peux pas te laisser dire ça. Écoute, ils ont déjà.
J'en ai fait les frais pendant 2 jours, ça, je peux t'assurer.
Oui, mais parce que toi, t'es un caméléon et t'as été formé par le Mossad. On est au courant, on a tout. On a les fiches. Non, mais ce que je veux dire par là, non, franchement, là, hormis ça, il y a eu tout un tapage médiatique qui fait que tu étais obligé d'avoir tous les focus sur lui. Le fait qu'il s'échappe, non mais soit il y a effectivement une complicité dans le sens où on a voulu que, soit ça veut dire, et là je te donne raison en disant qu'il y a une défaillance dans nos services et c'est super flippant au vu du taux et du risque d'attentat qu'il y a en France, ou soit...
Non mais moi ce qui me choque en fin de compte c'est qu'en fait on a l'impression qu'on le présente comme un terroriste hyper dangereux et tout, alors que ça n'a jamais été le cas. Il a peut-être tenu des propos offensants,
Ça, je ne sais pas, mais bon, a priori, certains disent que c'est le cas. Mais le traitement médiatique qui est fait de cet homme, on dirait que c'est un terroriste, en fait, qui a voulu attenter aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est ça qui est choquant, en fait. C'est le traitement disproportionné. Ce qui est choquant aussi, c'est que après la décision du tribunal administratif, ce qui est choquant, c'est les pressions qu'a mis Darmanin, les pressions au sein des médias. Je vais pas les citer, mais et voilà, on l'a présenté, on dirait, comme intérieur. C'est complètement disproportionné.
L'État lutte contre tout discours extrémiste, donc ça c'est clair, c'est la politique de l'État.
Oui, mais ça c'est pas un terroriste, apparemment.
Non, je dis pas que c'est des terroristes, mais je dis, aujourd'hui la question qui se pose, est-ce que si on revoit des discours, des interventions de d'autres personnes d'autres origines, que ce soit des extrémistes, des antisémites.
Bah, ça craint une jurisprudence.
Exactement. Ouais. Est-ce que ça va, ils vont avoir le même sort? Donc la question, je ne sais pas, moi j'ai vu des interviews de rabbins qui étaient un petit peu extrémistes, j'ai vu des skinheads qui étaient un petit peu extrémistes, et que ça tourne toujours sur YouTube. Est-ce qu'ils vont avoir le même...
Dès lors qu'ils sont étrangers, oui. Le gouvernement le fera pas,
là où on se dit à deux
ils
poids
le
deux
feront
mesures.
Pas non ils le feront pas. Après tu parles des rabbins, bon la plupart des rabbins sont français, hein.
Oui, bien sûr, mais
enfin je te parle de
double nationalité
aujourd'hui ils sont français, quoi, oui, même s'ils ont la double nationalité,
tout à fait
ils peuvent pas
je confirme, mais je dis juste pour finir que aujourd'hui cette affaire là il faudrait vraiment bien comprendre l'aspect juridique, puisque Maître et après on va comprendre si c'est vraiment il y a une intention politique pour avoir des élections, rendez-vous électoraux ou autres.
C'est évident.
19h10 précisément, messieurs, avec Maître David Levinsky, avec Philippe Nadjibouriaké, avec Rafik Tamgari. Autre sujet aussi, vous savez quoi, qui a secoué les réseaux sociaux, c'est cette vidéo d'une octogénaire agressée par trois jeunes à Cannes, dans le quartier de la Boca. Cette femme a 89 ans. 89 ans, elle a été frappée à l'arrière de la tête et laissée inconsciente complètement. Alors les agresseurs, ils sont jeunes, ils ont 14 ans, ils ont reconnu les faits, il lui aurait dérobé une dizaine d'euros.
Ouais, c'est honteux.
Franchement, messieurs.
C'est honteux. C'est encore un fait divers, comme il en existe depuis la nuit des temps, mais c'est honteux et la responsabilité.
Moi, je voulais qu'on en parle pour sensibiliser davantage les jeunes, là. Est-ce que c'est pas un peu les réseaux sociaux qui prennent le. Évidemment.
Oui, on veut faire du spectaculaire. On veut faire du spectaculaire, mais. Les jeunes, en fait, alors évidemment, on va pas généraliser, faut éviter de généraliser.
Surtout pas.
Tous les jeunes de 14 ans, 90% des jeunes de 14 ans ont quand même une certaine moralité. Mais là, bon, c'est choquant parce que c'est une femme de 89 ans, parce qu'ils étaient jeunes. Mais effectivement, les Instagram, alors pas les Twitter, parce qu'à 14 ans, ils sont pas sur Twitter.
Ils sont sur TikTok.
Sur Hazard maintenant. Le réseau social chinois. Mais oui, en fait, c'est honteux, mais c'est toujours pareil, hein. C'est aussi un problème d'éducation des parents. Je suis désolé de le dire.
Je pense que nos auditeurs, c'est plutôt des parents, plus que des enfants, je pense à Adil. Et c'est là où il faudrait vraiment sensibiliser les parents. Pourquoi je dis ça? Parce que très peu de parents prennent le temps d'échanger, de parler avec leurs enfants, avec les réseaux sociaux, avec Internet. On passe beaucoup plus de temps sur nos écrans que discuter, échanger à table avec les enfants. Et l'éducation est très importante.
C'est ce que je disais, quand je disais c'est un problème d'éducation des parents, c'est que les parents n'éduquent plus.
Il faudrait vraiment remettre le point sur ça, parce que il faudrait
vraiment que c'est les parents.
Les parents sont responsables de l'éducation.
Il y a les réseaux sociaux. Je suis d'accord.
Ils sont mineurs. Je pense qu'une dizaine de jours auparavant, il y a eu aussi trois jeunes mineurs qui sont partis en Grèce, où ils ont agressé un touriste espagnol.
Tout à fait.
Et c'est scandaleux. Donc
ils n'avaient pas 14 ans aussi.
Ils étaient mineurs.
Ils étaient quand même beaucoup plus âgés.
Il y en avait un qui avait peut-être 14 ou 15 ans, et les deux autres avaient 17 et 18.
Oui, mais on apprend entre 14 et 17, il y a quand même une différence.
Oui, mais je me dis, ça reste des mineurs. Donc ils sont, vis-à-vis de la loi, ils ne sont pas... on ne peut pas les juger comme une personne majeure. Donc c'est là où on se dit c'est un phénomène qui devient de plus en plus grand, et il faudrait vraiment faire quelque chose. Et la responsabilité des parents est numéro un.
Les parents surveillent leurs enfants dans l'utilisation des réseaux.
Il y a des phénomènes de mode. Récemment, il y a un phénomène.
Oui, c'est ça, le phénomène de mode des réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais qu'on l'aborde, moi. C'était évidemment.
Chaos. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le chaos. Les gens, ils se bagarrent, ils se filment et ils mettent ça sur les réseaux. Ils commencent le chaos. Et ça, c'est des phénomènes où nous, parents, on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas sur le Instagram, on n'est pas sur TikTok peut-être, et c'est les enfants qui peuvent remonter l'information, et c'est aux parents, c'est à la responsabilité de parents d'échanger, de les éduquer, de leur faire comprendre.
Déjà, il y a un premier point. Je pense que si les réseaux sociaux étaient payants et non anonymisés, ça éviterait déjà que des gamins puissent avoir des smartphones. Moi, ils ont des téléphones portables. Tu sais, ceux qui s'ouvrent là et que je peux envoyer un SMS.
Moi, mais payant, c'est impossible.
Non, mais je bah, si, tu peux les verrouiller. Et là, pour avoir un VPN là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de trouver des excuses à Pierre, Paul, Jacques. Ce qui s'est passé, c'est ignoble, inadmissible. On vient frapper une femme de 89 ans
pour une dizaine d'euros.
Oui, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. À la limite, la somme, on s'en fout. Qu'il y ait 10 euros ou qu'il y ait 1000 euros, c'est, l'acte est super grave. Il y en a un qui filme, un qui tape et l'autre qui arrache le sac. Je crois qu'il faut être sans pitié avec ces mômes. Sans aucune pitié. Évidemment, dans des centres d'éducation fermés, c'est ce qui se passe. Mais il faut qu'ils réparent leur erreur, parce qu'elle n'est pas entre la vie et la mort. Mais quand tu vois la chute qu'elle fait et que le crâne fracasse le sol, on ne parle pas d'une personne de 20 ans qui va...
Voilà, 7 jours d'ITT. Hein.
Ouais,
mais, 7 jours d'ITT. Ce qui n'est pas en soi pour une femme de son âge excessif. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais je pense qu'il faut être sans pitié, vraiment sans pitié, et leur faire casser des cailloux pendant toute leur période. Je veux pas, on n'est pas au bagne.
Il va ouvrir le bagne, Philippe.
Non, mais défraîchir les forêts qui ont brûlé cet été pour éviter que d'autres le font, ça peut être quelque chose d'éducatif et de comprendre leur erreur, parce que on a du bol que cette femme soit encore debout.
Tout à fait, ça c'est clair.
Et là, ça aurait pu être un homicide involontaire, et comme tu disais, ils sont mineurs, donc c'est leurs parents qui vont casquer derrière, donc ils sont pas... voilà, c'est pas possible. Il faut que ça serve de cas d'école et qu'on apprenne dans les éducations, dans les cours, dans les centres aérés, dans les centres de loisirs.
Non, c'est aux parents.
Non, mais aussi.
C'est pas aux enseignants.
Mais les parents, écoute, moi j'ai
pas
vu
les enseignants.
Non, il faut que toute la société se sente prête.
La société, elle est déjà présente.
Non, oui, elle est déjà présente.
Laissez-moi finir.
C'est pas le rôle des profs. Les profs, ils transmettent un savoir.
Les profs doivent transmettre l'instruction, et l'instruction civique en fait partie, de respecter les règles, de respecter les plus âgés, etc. Mais moi, j'ai vu, quand j'étais jeune, des agneaux, des enfants qui sont des agneaux à la maison et des lions à l'extérieur. Donc quand ils sont à l'extérieur, les parents...
On l'a tous été, hein, je crois.
Non, mais
il y a une différence entre un fait divers et un phénomène de société. Aujourd'hui, cette violence qui affecte les jeunes, ça devient un phénomène de société. Donc là, il faudrait vraiment qu'on fasse des réformes.
La sanction, elle doit être forte et doit être exemplaire pour que tout le monde sache que ça, c'est grave.
Mais au départ, ça vient des parents. Donc les enfants qui sont bien éduqués, et on le voit, il suffit juste de visiter une école, on peut tout de suite voir un enfant...
Le problème, c'est la sanction des parents. Quelle sanction ?
Tout à fait. Mais c'est ça le problème. De l'éducation. Quand on est ferme avec son fils ou sa fille et qu'on lui dit ça, oui, c'est bon. Ça... Donc là, la première crainte reste les parents. Donc si on fait une bêtise, on a peur des parents. C'est pas de la police ou c'est pas de la maîtresse.
Oui, non, mais on a plus peur des parents, parce que si les parents disent quoi que ce soit,
ils font pas leur travail.
Aujourd'hui, tu peux te retrouver en garde à vue. Blague à part.
Mais pas du tout. L'éducation des parents.
Il fait le 39-19. Il dit mon père, il m'a frappé. T'es mort.
Moi, c'est mes parents qui m'ont éduqué, c'est pas l'école. Exactement. L'école m'a transmis un savoir, mais l'école m'a pas éduqué.
L'école t'instruit, et c'est voilà. L'éducation.
Donc, ils font une enquête.
Chacun un tour de rôle, s'il vous plaît, pour éviter la cacophonie.
Je t'assure, c'est vraiment très compliqué. Et alors, en Suède, c'est encore pire. Je t'explique même pas.
On est en France, on parle de la France.
Oui, mais simplement, regarde, on subit des phénomènes d'autres pays sur l'éducation, et sur des enfants, en tout cas, qui sont réels. Le wokisme, par exemple, qui vient des États-Unis. Aujourd'hui, moi, je prends pas tout seul l'ascenseur avec une femme.
Allez, messieurs, on va marquer la dernière pause pub, s'il vous plaît, 19h16 précisément. Si vous venez de nous retrouver, vous voulez réagir aussi, 01 53 48 3000. Nous allons parler aussi de Ségolène Royal. Vous savez quoi ? Ces propos qui font polémique. Elle met en doute les possibles crimes en Ukraine et dénonce une propagande du président Zelensky, ukrainien. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez messieurs, le face-à-face, vous savez, c'est avec Philippe Nadjiboriaki, avec Maître David Levinskid, et enfin avec notre élu à Rueil-Ma-Maison, Rafik Temgari, messieurs, j'aimerais une petite une dernière ligne droite. Le temps file. C'est Ségolène Royal et ses propos, l'ex-candidate socialiste à la présidentielle 2007, en 2007, souvenez-vous, elle met en doute les crimes de, évidemment, de Bouchta, Boutcha, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Là, vous savez, cette fameuse maternité bombardée dans le sud-est de l'Ukraine. Mmh. Et elle s'insurge notamment, vous savez quoi, contre cette propagande de guerre, de la peur du président Zelensky. Maître David
Levinsky. Elle a raison. Bah, c'est normal que le président de l'Ukraine fasse sa propagande. C'est normal que Vladimir Poutine fasse sa propagande. C'est une guerre, donc chacun fait sa propagande. Donc on ne peut pas dire que le président de l'Ukraine a plus raison. Alors, Vladimir Poutine reste quand même l'envahisseur. Mais en tout cas, bien sûr que le président de l'Ukraine désinforme plus ou moins, ce qui est normal en fait, parce qu'il a besoin de soutien de l'Occident. Donc, alors concernant, ce crime, bon, c'est vrai que peut-être elle a un petit peu exagéré dans son propos, mais il faut pas oublier que c'est deux belligérants en fait, et que chacun en fait fait sa communication, qu'elle soit véridique ou qu'elle soit fausse, c'est le jeu de la guerre, c'est le jeu.
Graphique,
c'est le jeu de la guerre, mais par contre qu'aujourd'hui on a quand même des institutions internationales juridiques, on a l'ONU, on a des journalistes indépendants, on a des images, on a des photos, donc on a quand même quelque chose qui nous prouve qu'il y a des crimes de guerre et qu'on est documenté.
C'est j'ai pas juste... dit qu'il n'y avait pas de crimes de guerre.
Bah oui, mais elle dit qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre, donc je pense
non,
que aujourd'hui
elle a été un peu systématique.
Bah
mais
oui,
bon.
Mais je pense que c'est Ségolène Royal, elle est très connue. Là, je pense c'était sur BFM TV qui avait dit ça. Elle avait dit ça. Je sais pas si elle était habillée en blanc comme en Chine, mais aujourd'hui, je pense que elle sort vraiment des. Pour moi, c'est une ânerie, c'est une bêtise de dire ça. Aujourd'hui, on a vraiment toute la documentation, des images, des témoignages.
Ah non, mais là-dessus, je suis d'accord.
Donc, il faudrait vraiment dire les choses telles
après,
qu'elles sont.
Après, je pense que le président de l'Ukraine exagère aussi.
Oui, bien sûr.
Il faut le reconnaître.
C'est de bonne guerre. Donc, voilà. C'est comme ça la guerre. Aujourd'hui, c'est des deux côtés. Mais les crimes de guerre sont actuellement en Ukraine, ils ne sont pas en Russie. Donc, ce qui s'est passé, bombarder une maternité, ça s'est passé en Ukraine, ça ne s'est pas passé en Russie. Donc, aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui subissent
Les Irakiens l'ont subi de la part des Américains qui ont commis des crimes de guerre en Irak.
Mais bien sûr.
Ça, on aimerait bien aussi que ce soit dénoncé par Ségolène Royal.
Il aurait dû finir en prison.
George Bush, normalement, il aurait dû être jugé par la Cour pénale internationale à l'époque de l'Irak, en 2003, je crois, de mémoire. Il a jamais été jugé.
Philippe Nadji Bouriaki.
Il y a deux camps. Les deux camps font la com, évidemment, comme vous l'avez dit, mais. Aujourd'hui, il y a des chars russes en Ukraine et zéro char ukrainien en Russie. Moi, tout à l'heure, j'ai tweeté un truc très simple. Monsieur Darmanin et Monsieur Éric Dupond-Moretti, veuillez s'il vous plaît libérer immédiatement le dealer de Ségolène Royal. Parce que autant la drogue, ça peut apaiser les gens et je pense qu'elle en a besoin. Elle veut vraiment être sénatrice pour la NUPES et donc là, elle est complètement soumise à Jean-Luc Mélenchon d'une force phénoménale. C'est ignoble ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est affreux, c'est horrible. Voilà, la vieillesse, c'est pas beau et ça fait peur. Et donc je veux.
Elle n'est pas vieille, ce Ségolène Royal.
Oh là,
elle est pas
vieille, quelques bouteilles quand même. Hein.
Ouais. Non mais ça. Dire, ça... Pérignon, ils sont non mais en fait, ses propos permet aussi de lancer un débat
sur les informations données
par la Russie que par l'Ukraine.
Moi, je dirais que quand j'entends ces Ségolène Royal, je confirme que je suis pas de gauche. Donc c'est là où ça.
Non mais je ne crois pas qu'elle est de gauche. C'est ignoble ce qu'elle a dit.
Non mais après on est d'accord, c'est ignoble ce qu'elle a dit, mais faut aussi s'interroger pourquoi elle a dit ça, parce qu'on ne peut pas avoir qu'une ligne occidentale qui est pro-ukrainienne. C'est bien aussi de s'intéresser en fin de compte à la ligne pro-russe.
Et pas seulement passer sur les médias
des propos choquants, des éditorialistes.
Il y a un qui s'appelle La Russie, qui a fait de grosses niches, je sais pas si vous vous rappelez, en Tchétchénie, un grand parking géant. Là, il veut faire, je sais pas, il veut peut-être construire un grand centre commercial en Ukraine. Je suis désolé, il y a un envahisseur. Moi, je suis pas. Tu sais, David, j'étais le premier. D'ailleurs, je crois que j'étais le seul.
Moi, je suis pour la paix.
Non, mais je suis pour la paix aussi. Mais tu sais, quand la guerre a commencé.
C'est bien d'avoir la paix.
Zena fait aussi dire la vérité.
Zena
Fedorova, la présidente de RT France, a reçu des menaces. J'étais un des rares hommes politiques à lui apporter mon soutien. Quand ils ont fermé RT France, Russia Today, j'étais le seul élu qu'ils ont reçu toutes ces années. Ils en ont reçu un pléthore. Ils t'envoient les taxis, ils traitent bien, super bien. Le seul à m'indigner, à trouver qu'il y avait un problème, au nom de la liberté d'expression. Et trois semaines après, lorsqu'ils ont enfermé RFI au Mali, le président de la République s'est offusqué en disant « Ouais, la démocratie, la liberté, machin, etc. » Non, 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 non. Moi, je suis pas russophobe, loin de là.
Moi non plus, je suis ni pro-russe, ni pro-ukrainien.
Sauf,
je constate le traitement médiatique, en fin de compte.
J'ai pris mon parti pris, c'est de défendre celles et ceux qui souffrent et qui sont sous les bombes aujourd'hui russes, ils s'appellent les Ukrainiens. Voilà. J'aimerais que les Russes rentrent tranquillement chez eux. Et il y a des gamins russes, malheureusement, qui sont en train de tuer leurs cousins. Ils sont en train de perdre aussi la vie. Il y a des familles qui sont endeuillées. Ce sont des frères.
On est d'accord là-dessus. Cousins, on est d'accord.
Merci, messieurs. Je vous souhaite un très bel week-end, un très beau week-end, pardon. Merci à Rafik Temgari.
Merci Adil.
Merci à Maître David Lebeski. Merci à Philippe Najibouriaki.
À une prochaine. Merci
à la réalisation, c'était
porte-parole nationale de l'écologie au centre.
Exactement. Bravo. À la réalisation, c'était Tarek. Grand merci, Tarek. Et grand, grand merci aussi aux auditeurs qui ont été très nombreux ce soir. Mylène Lenman 2021. Je vous souhaite un très bon week-end. Vous le savez. Avec autant de plaisir, on se retrouve lundi à 18h. Et d'ici là,
on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Jamais.
C'est ça.
Bravo.
Ouais. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.